Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion. Heures passées de quelques secondes, un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radion et plus particulièrement dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, à quelques jours des commémorations du 11 novembre 1918. Que retenons-nous de la Grande Guerre ? Des images de tranchées boueuses et de poilus engoncés dans leurs capotes de combat, d'obus explosant un peu partout, transformant des paysages entiers en chaos de fer et de feu, d'assauts meurtriers, d'états-majors plus ou moins dépassés par les événements, et de grands mutilés, gazés, gueules cassées, d'ossuaires effroyables et de cimetières à perte de vue, et puis les noms de Gallieni, Nivelles, Pétain, Foch, Clémenceau. Depuis quelques années, nombreux sont les films réalisés sur la Grande Guerre, La vie et rien d'autre, Un long dimanche de fiançailles ou Joyeux Noël, qui venait longtemps après Les Sentiers de la Gloire. Notre émission aujourd'hui a pour but non seulement de partager avec vous des témoignages d'écrivains combattants que vous allez entendre, mais aussi de revenir sur une époque où l'on écrivait beaucoup, je pense, et vous le savez, à la très nombreuse correspondance des soldats dans les tranchées, soldats qui écrivaient des lettres à leur famille. Et puis la presse de l'époque aussi, extrêmement importante, 10 millions de journaux vendus chaque jour en 1914 pour une population de 20 millions d'adultes. La Grande Guerre a d'ailleurs été un accélérateur dans les pratiques de lecture. Je rappelle que la journée du 22 août 1914 a été une des plus meurtrières, 22 000 tués du côté français. Rappelons cette première guerre mondiale en chiffres. C'est un conflit planétaire, 70 millions d'hommes mobilisés, dont 8 millions en France, 10 millions en Allemagne, au total 8 millions de morts, plus d'1 400 000 Français sont morts au combat et 1 700 000 en Allemagne, pour 740 000 en Grande-Bretagne. Résultat en France, 300 000 mutilés, 600 000 veuves et 700 000 orphelins. Alors pour ouvrir cette émission, je vous propose d'entendre la voix d'un écrivain combattant. Dès 1918, on dénombre 340 récits de guerre édités en France, essentiellement des combattants issus de l'infanterie. La prose domine, il y a assez peu de poésie combattante, mais il y a trois ouvrages clés de la période 14-18, trois récits de combattants en 1918, Gaspard, Le Feu, sous-titré Journal d'une escouade, et Les Croix de bois de Roland Dorgelès. Roland Dorgelès, qui fait paraître donc ce roman en 1919, qui manquera de peu le prix Goncourt au profit de Marcel Proust et qui sera récompensé par le prix Fémina. Écoutons Roland Dorgelès expliquer comment il s'est engagé dès le début de la guerre.
Oh, c'est tout simple, j'étais réformé et comme tous les garçons de ma condition, de mon âge, de mon milieu, eh bien, j'ai couru pour m'engager. Je me suis précipité au bureau d'engagement, ce n'était pas facile. On faisait la queue au bureau de recrutement. On se battait pour passer les premiers. Il fallait un service d'ordre et des agents pour faire défiler les volontaires. Je suis retourné en 1939 au même bureau de recrutement par curiosité. On ne faisait pas la queue, il n'y était pas nécessaire d'avoir de service d'ordre. Nous sommes vraiment partis dans l'enthousiasme. À ce moment-là, je travaillais à L'Homme Libre, comme je te l'ai dit, sous la direction de Clémenceau. Et j'étais tellement pressé de partir que j'ai dit à Clémenceau, j'ai dit au patron, « Eh bien, donnez-moi une carte pour le colonel de la place et je passerai avec un tour de faveur, je partirai plus tôt. » Et il m'a dit, de sa voix qui ronçonnait toujours, si vous croyez que j'ai du pouvoir auprès de ces gens-là, auprès de ces brutes galonnées, vous vous trompez. Enfin voilà, il me donne un mot pour le colonel, qui commandait la place de Paris. Je suis allé me présenter hardiment, car les militaires ne me faisaient pas peur, parce que je ne savais pas du tout qui c'était. Eh bien, cet homme m'a reçu et m'a dit, textuellement, « Vous n'êtes pas plus pressé que les autres. » J'étais en tout cas plus pressé que lui, qui n'est jamais parti pour le front. Je suis donc parti pour la guerre, et je dois dire que Clémenceau m'a donné une chance immense. J'étais au front depuis peut-être un an, quand il a prononcé au Sénat un grand discours condamnant le commandement, disant, dénonçant le manque d'armement, la désorganisation du service de santé, bref, un discours extrêmement violent. Il mettait véritablement l'état-major en accusation. Il m'envoyait ce discours dactylographié avec sa carte de visite et un petit mot. Aussitôt, j'ai lu cela à mes camarades qui se tordaient parce qu'on disait du mal des grands généraux. Et puis le lieutenant de Saint-Aglis, après que j'avais reçu cette lettre, il m'a demandé à lire le discours du président. Je lui ai donné. Il l'a lu. Et le surlendemain, on me convoquait chez le colonel. J'ai dit, quand nous sommes redescendus des lignes, je dis, bon sang, qu'est-ce qui m'arrive, on va me foutre en prison pour défaitisme. Pas du tout. Le colonel a été très épaté que je communique avec un ancien président du conseil. Il a été très gentil, il m'a fait asseoir, ce qui ne m'était jamais arrivé. Et de ce jour-là, j'ai eu une situation assez favorisée dans le régiment. Eh bien, mon Dieu, je n'en étais pas fâché. Là, j'ai fait mon apprentissage de soldat, maniant la pioche autant que le fusil. Enfin, tu connais cela comme moi et mieux que moi. J'ai mené une existence difficile, mais de jour en jour, j'apprenais à mieux connaître les hommes et à les respecter un peu plus. Car c'était une merveilleuse école que celle des tranchées. C'était un grand confessionnal où on se mettait vraiment à nu. Il n'était pas question de truquer, là. On connaissait vraiment la valeur du camarade qui était à vos côtés, s'il était capable de vous venir en aide si vous tombiez blessé. Vraiment, c'était un échange d'humanité merveilleux. C'est tous les écrivains qui ont écrit sur la guerre ont rapporté le même sentiment. Ce qui a lieu de merveilleux, la leçon que nous avons rapportée, c'est une grande leçon de fraternité. C'est ce que j'ai essayé de mettre dans mon œuvre, de faire revivre les camarades, de les montrer tels qu'ils étaient, dans toute leur simplicité héroïque. Ils ne se payaient pas de mots, ils ne se payaient pas de grands gestes, ils faisaient leur devoir, et le devoir à l'époque s'écrivait avec un D majuscule.
À l'instant, la voix de Roland Dorgelès, l'auteur des Croix de bois paru en 1919, roman qui ratera de peu le prix Goncourt, mais qui sera récompensé par le prix Fémina. Autre écrivaine qui a laissé un témoignage sur les débuts de la Grande Guerre, je veux parler de Colette. On va d'ailleurs entendre un extrait des Heures longues 1914-1917, un extrait lu par Marie-Lou. Colette, dont Jean Paulhan disait qu'elle était une grande journaliste égarée dans le roman. Colette a effectivement écrit de nombreuses chroniques dans Le Matin, Le Flambeau ou La Vie parisienne. C'est d'ailleurs ces textes qui sont rassemblés dès 1917 dans un recueil intitulé Les Heures longues. Ces chroniques, Colette les écrit entre août 1914 et novembre 1917. Et il est vrai que la mobilisation de l'été 1914 a privé l'imprimerie et les différents services du journal Le Matin d'une grande partie du personnel. Le journal tourne donc au ralenti. On dénombre 21 petits papiers sous la plume de Colette en 1915, un seul en 1916 et aucun en 1917-1918. Colette a effectivement fait paraître un grand nombre d'articles. Et d'ailleurs, en la fin de l'année 1918, elle visite Verdun et Metz, Meurtry. Elle interviewe la reine de Roumanie en visite en France. Alors tout de suite, un extrait des Heures longues de Colette, lu par Marie-Lou.
Saint-Malo, août 1914. La guerre, jusqu'à la fin du mois dernier, ce n'était qu'un mot, énorme, barrant les journaux assoupis de l'été. La guerre, peut-être, oui, très loin, de l'autre côté de la terre, mais pas ici. Comment imaginer que l'écho même d'une guerre pût franchir ces rochers, farouches uniquement pour que semble plus doux à leurs pieds la vague, le gazon marin clairsemé, le chèvrefeuille, le sable gaufré par la petite serre des oiseaux. Ce paradis n'était point fait pour la guerre, mais pour nos brèves vacances, pour notre solitude. Les récifs cachés sous la mer n'y veulent point de barque. L'épervier vigilant en bannit les oiseaux. Chaque jour, vers l'heure de midi, Il montait au ciel et tardait à redescendre. Notre jumelle marine le découvrait très haut, large ouvert, appuyé sur le vent, et son bel œil brûlant ne regardait pas la terre. C'était pourtant la guerre, cette cancalaise dure, cette vendeuse de poissons qui avait cessé le mois dernier de bavarder et de rire, qui réclamait son dû en argent et en bronze et refusait les billets de banque, qui regardait au loin sur la mer venir le cortège des jours sans pain ni cidre. C'était la guerre, ce garçon épicier à bicyclette qui colportait, au grelot allègre de sa machine, des bruits de disette, des avertissements de cacher le sucre, l'huile, le pétrole. C'était la guerre. Dans Saint-Malo, où nous courions chercher des nouvelles, un coup de tonnerre entrait en même temps que nous. La mobilisation générale. Comment oublierais-je cette heure-là? 4 heures, un beau jour voilé d'été marin, les remparts dorés de la vieille ville debout devant une mer verte sur la plage, bleue à l'horizon. Les enfants en maillot rouge quittent le sable pour goûter et remontent les rues étranglées. Et du milieu de la cité, tous les vacarmes jaillissent à la fois. Le tocsin, le tambour, les cris de la foule, les pleurs des enfants. On se presse autour de l'appariteur au tambour qui lit. On n'écoute pas ce qu'il lit parce qu'on le sait. Des femmes quittent les groupes en courant, s'arrêtent comme frappées, puis courent de nouveau avec un air d'avoir dépassé une limite invisible et de s'élancer de l'autre côté de la vie. Certaines pleurent brusquement et brusquement s'interrompent de pleurer pour réfléchir, la bouche stupide. Des adolescents pâlissent et regardent devant eux en somnambule. L'automobile qui nous porte s'arrête, étroitement insérée dans la foule qui se fige contre ses roues. Des gens l'escaladent pour mieux voir et entendre, redescendent sans même nous avoir remarqués, comme s'ils avaient grimpé sur un mur ou sur un arbre. Dans quelques jours, qui saura si ceci est tien ou mien? Les détails de cette heure me sont pénibles et nécessaires, comme ceux d'un rêve que je voudrais ensemble quitter et poursuivre avidement.
Un extrait des Heures longues de Colette, lu par Marie-Lou. Arrêtons-nous maintenant, si vous le voulez bien, sur Maurice Genevoix. Maurice Genevoix, né le 29 novembre 1890 dans la Nièvre, à Decize. Il est mort le 8 septembre 1980. Écrivain et poète, membre de l'Académie française. Maurice Genevoix est connu pour ses livres régionalistes, inspirés par la Sologne et le Val-de-Loire. On rappellera son roman Rabolio, qui obtient le prix Goncourt en 1925. Mais l'œuvre de Maurice Genevoix est également marquée par le traumatisme de la Grande Guerre de 14-18, particulièrement dans Ceux de 14, un recueil de récits de guerre rassemblés en 1949, considéré comme l'un des plus grands témoignages sur ce conflit. Il s'est aussi penché plus largement et plus intimement sur sa vie en écrivant une autobiographie en 1980 et publiée sous le titre « 30 000 jours ». Sur décision du président de la République française Emmanuel Macron, le cercueil de Maurice Genevoix entre au Panthéon le 11 novembre 2020. Je vous propose tout de suite d'entendre la voix de Maurice Genevoix.
Je crois que ça a d'abord été une école de vérité. Il était impossible au contact direct de réalité effroyable, je reprends le mot que vous avez eu, c'est-à-dire la faim, le froid, la souffrance physique et la présence continuelle de la mort, il était incapable, impossible de tricher. Nous avons été doués tout de suite d'une lucidité qui nous est restée à la fois comme une malédiction, comme une arme et comme un recours. La première fois qu'on entend une balle, par exemple, frapper dans le corps d'un camarade qui court à côté de vous, vous savez, ça fait un choc mat comme un coup de couteau, et qu'on le voit tomber dans les 2 ou 3 ruelles et puis rester immobile, et c'était l'instant d'avant, 20 ans, 22 ans, avec l'espoir de vie que cela implique, et puis un cadavre. Alors c'est déjà une chose qui marque. Et puis ensuite, que j'ai connu aux épars ce qu'on appelait la boue. Je ne savais pas ce que c'était que la boue, mais dites-vous que c'est quelque chose dans laquelle on peut avoir les pieds gelés, par exemple, par un froid humide. Si on y reste trop d'heures, eh bien on est sûr que le lendemain, on aura des orteils gelés, qu'il faudra les amputer. C'est une chose dans laquelle aussi on peut se noyer. Car j'ai vu, en février, entre février et avril 1915, des blessés légèrement atteints aux jambes, à bout de force, glisser dans la boue et se noyer. Mais aussi et surtout, la leçon que j'ai rapportée de cette expérience le même mot me revient, effroyable. C'est un sens de la fraternité, de l'identité profonde des hommes confrontés à leur destinée. Je vous évoquerai simplement un souvenir, ou deux si vous voulez. Le premier, c'est aux Éparges, alors que chargé d'une mission dangereuse vers l'arrière, je devais descendre et remonter, mais dans un secteur bouleversé par des bombardements qui duraient depuis 4 jours, on ne reconnaissait plus ni les tranchées de départ, ni les anciennes tranchées, ni les boyaux, un secteur bouleversé, noirci par les explosions, verdi par l'acide picrique des obus qui avaient éclaté là, qui avaient broyé la terre, qui l'avaient triturée, qui en avaient fait quelque chose, vraiment un magma innommable. Et à un moment, les Allemands nous avaient chassé de la lèvre d'un entonnoir où ils avaient installé des créneaux blindés derrière lesquels, ayant repéré tel passage, parce qu'il y avait quand même quelques allées et venues, ils abattaient tout homme qui se laissait voir. Bon, eh bien je devais passer à un de ces endroits, mais je ne le savais pas. Et alors à un moment j'ai été arrêté comme mystérieusement, ni par un cri, ni par une poussée sur mon épaule, j'ai été arrêté mystérieusement. Et j'ai regardé, je n'ai rien vu. Mais j'ai regardé un peu plus devant moi, en avançant avec circonspection, et j'ai vu un tas d'hommes qui venaient d'être en effet abattus. Et contrairement à mon impression première, le dernier qui était tombé, je l'avais cru mort, par-dessus les autres, mais il n'était pas. Il était tombé sur le dos, il avait dû recevoir une balle dans la moelle épinière, en tout cas il était paralysé, il était muet, il était incapable d'articuler un mot distinct et de faire un geste. Mais c'était ses yeux, l'intensité de ses yeux, qui m'avait en effet arrêté. Alors j'ai réagi en vivant, je lui ai dit, enfin, on ne sait pas quand on n'est pas passé soi-même par là, je lui ai dit comme un vivant, comme un homme qui était debout devant lui, gisant, je lui ai dit, écoute, je descends, je vais avertir les brancardiers, ils vont revenir, ils vont monter, ils vont descendre, tu seras sauvé. Et à ce moment-là, son regard qui était assez douloureux ne s'est pas éclairé du tout, et j'ai eu le sentiment étonnant que je me trompais. Et puis, j'ai eu vraiment un spasme au cœur. Ça m'a bouleversé. J'ai cru comprendre et j'avais en effet compris. Alors, j'ai transposé et je lui ai dit, alors ça c'est une chose extraordinaire, je lui ai dit, tu m'avertis, c'est toi qui me dis qu'il ne faut pas que je passe là parce que je vais me faire descendre à mon tour. Bien, quand je lui ai dit cela, ses yeux se sont illuminés. Il a un visage sublime. Eh bien, je dois vous dire que, enfin, pensez-y une seconde, cet homme-là pour qui tout était révolu, il le savait, il était perdu, eh bien, sa dernière lueur de conscience, sa dernière lueur de vie, il la vouait à sauver, non pas moi, mais un autre homme, enfin, son semblable, son frère. Et rien qu'à cause de cela, je ne peux pas dire que je pardonne à la guerre, je lui en veux encore plus. Car pensez à ceci, nous avions 25 ans, et au long des étapes d'une vie d'homme, normalement, quand on se retourne, qu'on a 30 ans, 40 ans, eh bien, on doit voir des ombres ou des visages de vivants qui vous accompagnent, qui vous suivent dans la vie. Eh bien, nous, à 25 ans, quand nous retournions, nous ne voyons plus que des morts.
La voix et le témoignage du romancier Maurice Genevoix dans Wagon Livre sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission entièrement consacrée à l'écrit et les romanciers de la Grande Guerre 14-18. Nous marquons un premier intermède musical. Tout de suite, je vous propose d'écouter Le Cri du Poilu.
V'là plus d'une année que dans les tranchées, nos petits soldats loin de tout le monde sont là-bas. Pendant la bataille, ils bravent la mitraille, ils pensent plus à rien qu'à bien surveiller les Prussiens. Mais quand ils sont au repos et qu'ils n'ont pas de flingot, couchés sur le dos, à nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, une femme. Qu'est-ce qui leur ferait gentiment passer un sacré bon moment? Une femme, une femme. Au lieu d'être en face des Allemands, ils aimeraient bien mieux certainement. Une femme, une femme. Très bon sang, qu'est-ce qu'ils ne donneraient pas pour tenir un moment dans leurs bras? Une femme, une femme.
quand Henri Pambelle, il bouffe la gamelle. C'est vite avalé, en deux temps ça n'a pas traîné. Ensuite sur la paille, allongé il baille. C'est un nom de nom, presque tous la même réflexion. Et dans ce moment-là, à quoi ne pense-t-il tout bas? Ne cherchez pas à nos poilus qui sont sulfants. Qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, une femme. Quand ils ont bouffé leur attaque, qu'est-ce qu'ils demandent comme second plat? Une femme, une femme. Sapristi pour calmer leur nerf s'il leur arrivait comme dessert. Une femme, une femme. Qu'elle soit grande ou petite, ma foi, ça ne fait rien pourvu que ce soit. Une femme, une femme. Quand dans la tranchée, ils passent la journée par les petits créneaux, ils envoient aux poches des pruneaux. Puis ils se reposent, pensent à des tas de choses, puis leur font créneau passer dans tout le corps des frissons. Avant de s'endormir, ils ont dans un soupir le même désir. À nos poilus qui sont sulfants, que s'il leur faut comme distraction, une femme. Une femme, il y a tant d'amoureux là-bas qui pourraient faire plaisir à une femme, une femme. À ce moment, c'est l'essentiel, il faudrait qu'il leur tombe du ciel. Une femme, une femme. Et comme prière du soir, ils disent bon Dieu, fais-nous donc voir une femme, une femme.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Votre émission littéraire revient aujourd'hui sur l'antenne de Radion sur la Grande Guerre et les écrits de la Grande Guerre. Et d'ailleurs, nous allons entendre la lettre d'un poilu à son fils. C'est une lettre signée de Joseph Thomas, agriculteur à Saint-Georges d'Espéranche, en Isère. Il rédige cette lettre pour son fils Armand, alors âgé de 15 mois. Il est tué le 30 mars 1916, à Verdun. Écoutons ce texte, lu par Patrick.
5 août 1915, à mon petit Armand. Tu es encore bien jeune et ne peux comprendre ce qui se passe en ce moment. La guerre, ses horreurs, ses souffrances. Cette carte sera un souvenir de ton père et il souhaite qu'à l'avenir les hommes soient meilleurs et que semblables choses ne puissent plus arriver. Que jamais tu n'aies besoin et sois forcé de mener la vie que je subis en ce moment, en compagnie de beaucoup de papas qui ont laissé, comme moi, de petits anges chez eux. Pour t'élever, tu te trouves d'être bien pénible, mais tu te rattraperas de cela en étant, dans quelques années, un petit garçon bien gentil et obéissant. Le moment venu, je serai sûrement auprès de toi pour te diriger. Mais si mon espoir était déçu, en mémoire de ce père que tu n'auras pas connu, redouble de gentillesse pour ta mère et pour ceux qui t'élèveront. Devenu un homme, sois du nombre de ceux qu'on appelle les honnêtes gens. Sois bon pour ton prochain, ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'il te fût fait. Vénère ta mère, sois pour elle un soutien véritable. Rappelle-toi aussi que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la richesse et les honneurs, mais dans le devoir vaillamment accompli, ainsi que les bonnes actions. Si le destin te donne des épreuves à subir, sois courageux et tu les surmonteras. Mais si par malheur tu te laisses entraîner par le vice, les passions, relis vite mes conseils, ne te laisse pas aller à la dérive. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Une fois entraîné par le courant, on roule, de chute en chute, et il arrive qu'on ne peut plus se relever. C'est trop tard. Alors, arrivé à ce point, la vie est finie, gâchée par sa faute, et on n'est plus bon qu'à être la risée, ou montré du doigt par tout le monde, suivant le penchant qui a perdu l'homme. J'espère n'avoir pas à rougir de toi, car je sens que tu suivras le chemin de l'honneur. En attendant de pouvoir te choyer et caresser, je te fais, mon petit fanfan, de grosses bises.
Un numéro spécial guerre de 14-18 aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radion. Cette grande guerre, une des plus grandes boucheries de l'histoire, 8 millions de poilus français entre 1914 et 1918, 50 mois de guerre, bilan mondial 10 millions de morts, 20 millions de blessés. Et puis bien sûr, il y a toute une catégorie de jeunes Français qui sont mobilisés au combat, venant de tous horizons sociaux. Rappelons par exemple la mort du poète Charles Péguy, le 5 septembre 1914, il est tué à Villeroy, en Seine-et-Marne. Rappelons aussi le 10 septembre 1915, la naissance du journal Le Canard Enchaîné. Et puis le 3 août 1916, commence à être publié en feuilleton dans le journal L'Œuvre, Le Feu, roman d'Henri Barbusse. Et puis septembre 1919, c'est Marcel Proust qui reçoit le prix Goncourt pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Je vous propose tout de suite de réentendre la voix de Maurice Genevoix. Maurice Genevoix qui évoque deux écrivains français mobilisés dans cette guerre et qui y perdirent la vie, Louis Pergaud et Alain Fournier. Maurice Genevoix.
Nous avions été embarqués dans cette aventure sinistre, effroyable, humainement parlant, mais au moins nous nous disions, et c'était ça, faire le sacrifice de sa vie, et à une cause qui nous devenait, qui était à nos yeux sacrée. Nous estimions, nous étions sûrs qu'après ça, nous vivions tellement d'ignominie, d'abomination, que la mémoire des hommes en resterait imprégnée à jamais, et dirait que les hommes diraient en conséquence plus jamais ça. Hein? Bon, ça a duré 20 ans, vous le savez. Et Chabot, qui délire toujours, clapant de la langue et menant ses chevaux derrière sa charrue, dans son champ, « Dia, hu, allez petit, dia !» Son délire tombe tout à coup et il m'appelle, affolé de désespérance. « Mon lieutenant, ah, c'est terrible. Si vous aviez la jambe coupée, vous encore, mais moi, un de l'assistance, un valet de culture qu'on nourrit pour le travail qu'il donne, on ne voudra plus de moi, on me foutra dehors de partout. Ah, mon lieutenant. » Il pleure, la poitrine grosse de chagrin. Il me supplie encore avec une douceur enfantine. « Coupez, dites, coupez-la !» Et puis il retombe au délire, lance ses dia et ses clappements de langue, pendant que Petit Bru, inlassable, pousse de nouveau son éternelle clameur. Pergaud, je l'ai vu tomber, moi. C'était en avril, au début d'avril 15. Et nous étions sur la hauteur de la colline des Éparges, que nous avions conquise, d'ailleurs, Dieu sait à quel prix, sur un front de, mettons, 1200 mètres. Il est tombé 20 000 tués, 20 000. Ça fait à peu près un peu moins de 20 cadavres au mètre courant. Je parle français et allemand, mais 10 000 de chaque côté. Et alors, nous étions là, et pendant que se déclenchait une offensive, absurde d'ailleurs, aussi absurde que celle de Nivelles au chemin des Dames, sur les villages de la Voivre. Je ne sais pas si vous voulez bondir jusqu'aux collines de Metz, sur vraiment un tapis de billard. Alors on voyait très bien nos soldats sortir de leurs tranchées, d'ailleurs presque inondables, alors la Voivre est un peu marécageuse, mais ils avaient encore des capotes bleues et des pantalons rouges.
Garance, oui.
Et on les voyait tomber comme des ludions, vous savez, des hop, hop, hop. Mais j'ai su que Pergaud était parmi eux, et que parmi ces petits bonshommes que je voyais dégringoler, et alors c'est la même chose. On les avait vus tomber à côté de nous, à nos côtés alors, sur la hauteur des Éparges, et nous, nous pouvions concevoir ce que ça représentait. Ces figurines, vous savez, comme au jeu de massacre, qui tombaient. C'est le jour, Chabot, la lèvre pendante, la face dure et décolorée, regarde sa jambe morte qui traîne à côté de lui. Et Jean ne peut même plus tousser. Il tourne tout doucement la tête, à droite, à gauche, la bouche auréolée de sang. Et Biloré, si réduit, avec sa tête penchante, son mince visage qui ne saigne plus, le nez noir de sang coagulé. À l'une des blessures de son pouce coupé, je reconnais encore, pauvre Chantoiseau, cette contraction de la chair pâle, cet affreux spasme, rythmique et profond. Petit Bru, épuisé de cris, semble dormir, la bouche ouverte. Et ceux qui vivent, Sénéchal grelottant, Carichon morne et boulé sur lui-même, Putman apparut tout à coup, les joues charbonnées de poils noirs, les traits noués d'un rictus immobile. Et là-bas, Mémas décapité, Libron décapité, Reynaud tombé à plat ventre, la tête en bas, un éclat fiché dans le crâne, luisant et net comme un coin de bûcheron. Et toujours les mêmes flaques jaunes, les mêmes épaves innommables, les mêmes souillures, la même misère poisseuse, tachée de boue, rongée de boue, et la pluie qui ruisselle là-dessus, et les obus qui tombent toujours avec les mêmes sifflements, les mêmes chuintements, les mêmes explosions, les mêmes colonnes de fumée sombre, et les shrapnels qui teintent là-bas, qui poursuivent depuis 5 jours le long des routes qui s'éloignent, les groupes fragiles et lents des blessés. J'ai eu l'occasion d'en parler récemment dans un enregistrement de télévision. C'est la mort d'Alain Fournier. Eh bien, je n'ai pas vu tomber, oui. Il est tombé dans le bois de Saint-Rémy, sur les Hauts-de-Meuse. Et le jour même, le soir, nous avons pris les avant-postes sur un champ de bataille, encore tout chaud. Et en face de nous, nous étions à l'orée d'un bois. Il y avait en avant une clairière sur laquelle la nuit tombait et qui était jonchée de cadavres, mais aussi de blessés ou d'agonisants qu'on n'avait pas pu ramasser et secourir. Et toute la nuit retentissait d'appels en français, les brancardiers, puis en allemand, ils disaient « Hilfe, Hilfe », c'était leur mot, « à l'aide ». Et il y avait même un cheval blessé qui hennissait dans la plainte ululante, ressemblait d'une façon bouleversante à…
Une plainte humaine.
Exactement. J'allais dire, c'était simplement la bête qui souffrait. Et chez les hommes, c'était la même chose. Eh bien, on n'a jamais retrouvé le corps d'Alain Fournier. Et depuis, on ne me retirera jamais de l'esprit que parmi les voix qui se plaignaient, qui gémissaient dans cette nuit vraiment sinistre,
il y avait celle du Grand Maulne.
Il y avait celle de l'auteur du Grand Maulne.
À l'instant, dans votre émission littéraire, la voix de Maurice Genevoix, né en 1890 dans la Nièvre à Decize et disparu en septembre 1980. Il est l'auteur de « Ceux de 14 ». L'écrivain Colette, à nouveau, parce que Colette a écrit quelques articles de journaux. Colette, née en 1873, disparue en 1954, témoigne de sa rencontre avec les blessés de la Grande Guerre dans un texte rassemblé sous le titre « Les heures longues », texte qui est lu par Marie-Lou.
3 heures. La belle lune glacée a quitté le ciel. Et il s'en faut 2 heures encore que les fenêtres bleuissent. C'est le moment le plus obscur et le plus calme dans le dortoir du collège-hôpital. Sous l'électricité en veilleuse, les 8 blessés sont endormis. Endormis mais non silencieux. Le sommeil libère la plainte qu'ils retiennent tout le long du jour par orgueil. Le pleurétique geint régulièrement, d'une voix douce, comme une femme. Celui qui a la mâchoire et l'œil éclaté dit de temps en temps « Oh !» avec l'accent de l'effarement, du scandale. Un mince jeune homme blond, amputé de la jambe depuis 4 jours, gît sur le dos, les bras ouverts, et son sommeil semble avoir renoncé à la vie. Un barbu, le bras pris dans le plâtre, cherche son lit en soupirant, la place où il souffrirait le moins. Cet autre, la gorge bandée, râle. Non, il ronfle, en étouffant à demi. D'hier soir jusqu'à 7 heures, ils n'ont goûté que des miettes de repos, brisées, mesurées par la fièvre, la soif, les lancements intolérables. Ils ont imploré tour à tour le verre de tisane, le grog, le lait chaud, la piqûre, surtout la piqûre. Les voilà ces braves vaincus par la longue nuit. Misérables comme les voilà, s'éveilleront-ils ? Oui, ils s'éveilleront, quand les passereaux crient sur le gazon blanc de gelée. Les 8 blessés saluent aussi l'aube rouge, d'un cri plus vif, d'un soupir plus haut, d'un juron étouffé où reparaissent la vie et le rire. Ce sont les fils d'une bonne race qui ressuscitent et bondissent avec la lumière. Assis et flairant le parfum du café, le pauvre monstre à la tête éclatée et pourpre clignera vers moi son œil unique et me dira de sa demi-bouche malicieuse « Avouez que j'ai vraiment ce qu'on peut appeler une grogne rubiconde !» Et il réclamera sa double ration de petit déjeuner, alléguant que le liquide, ça ne lui tient pas au corps. Soulevant son lourd bras plâtré, le voisin, grivois et gaulois, se réjouira selon Rabelais et le petit amputé exsangue, préoccupé de son moignon, de la barbe blonde qui salit ses joues, de son avenir de joli garçon, m'interrogera encore une fois. « dites voir, comment il était amputé, votre père ?» Plus haut que moi, hein ? Et il marchait, oui. Il courait, dites voir, comme un lapin qu'il courait. Et c'est vrai qu'il a trouvé à se marier tout de même, oui. Avec une jolie femme, c'est vrai. Comment elle était, sa femme ? Dites voir.
Un extrait des Heures longues, texte de Colette, lu par Marie-Lou. Colette qui découvre les soldats français blessés. J'ai dit combien les écrits, la correspondance étaient importantes durant cette période de 14-18. Il faut aussi mentionner l'existence de journaux de poilus. En effet, pour lutter contre l'ennui, le bourrage de crâne des journaux de l'arrière et surtout entretenir leur morale, les poilus créent avec les moyens du bord leurs propres journaux. Multigraphiés à la pâte de gélatine ou à la Roneo, ce qui permet de partir d'une matrice manuscrite mais donne un rendu de qualité médiocre et des tirages limités, ou imprimés à l'arrière avec des fraises et des délais plus importants, les journaux de tranchées apparus fin 1914 vont se multiplier jusqu'au milieu de l'année 1916 et perdurer jusqu'à la fin de la guerre. 500 titres environ ont vu le jour, dont moins d'une moitié sont parvenus jusqu'à nous, ce qui n'a rien d'étonnant vu leurs conditions de publication, de diffusion et de conservation. Point commun de ces journaux, leur irrégularité. Les circonstances imposent une parution intermittente signalée par anticipation dans le sous-titre. Ainsi, l'antiseptique, organe des brancardiers et infirmiers de la 39e division d'infanterie est très clair, paraît à l'improviste où nous pouvons, quand nous pouvons, comme nous pouvons. Deuxième point commun, l'humour, revendiqué comme raison d'être de beaucoup de journaux, il s'agit de faire passer un bon moment aux poilus. Cet humour est souvent noir pour masquer la dureté et l'horreur de ce qu'ils vivent. L'émotion transparaît aussi souvent à travers les témoignages et les nombreux poèmes publiés. Notre rire, l'organe de la 2e division de cavalerie et de la 89e section de projecteurs, l'exprime dans son slogan « Le poilu doit se hâter de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. » Je tenais donc à rappeler effectivement l'existence de ces journaux de poilus. Nous allons marquer un nouvel intermède musical. Nous écoutons tout de suite une chanson qui a pour titre « Vive le Pinard ».
Sur le chemin de France et de Navarre, le soldat chante en portant son bazar, une chanson authentique et bizarre, dont le refrain est « Vive le Pinard !» Une telle, le Pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y, Pinasse, remplis mon quart. Vive le Pinard, vive le Pinard. Aimer sa sœur, sa tante, sa marraine, jusqu'à la mort, aimer son étendard, aimer son frère, aimer son capitaine, ça n'empêche pas d'adorer le Pinard. Oh non, le Pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y, Pinasse, remplis mon quart. Vive le Pinard, vive le Pinard. Sur le talus, renverse ta perdère, de l'ennemi, renverse nos remparts. Dans les boyaux, fiche-toi la gueule par terre, mais ne va pas renverser le Pinard. Oh non, le Pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y, Pinasse, remplis mon quart. Vive le Pinard, vive le Pinard.
ma chancelette. Je vous en prie, ne soyez pas flemmard. Trouvez-moi-le en chantant cette putette. Le gai refrain de Vive le Pinard. En cœur le Pinard, c'est de la vinasse. Ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y Pinasse, remplis mon quart. Vive le Pinard, vive le Pinard. Vive le Pinard, vive le Pinard. Vive le Pinard, vive le Pinard.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
À l'instant, Vive le Pinard, une chanson qui donnait le moral aux soldats, un alcool assez fort ou une goutte que l'on donnait aux combattants avant de se lancer à l'assaut de la tranchée ennemie. Nous allons écouter un poème intitulé « L'heure de la soupe », extrait du recueil de Gaston Chantrieux, recueil qui a pour titre « L'épopée suprême » paru en 1920. C'est un poème humoristique qui relate avec malice l'importance du repas dans le quotidien des poilus. Et ce poème, L'heure de la soupe, est lu par Marie-Lou.
L'allègre cuisinier, dieu du cantonnement, parachève au fourneau sa tâche solennelle. Le bouillon aux yeux d'or, de gamelle en gamelle, s'épanche et l'on sourit à son fleuve fumant. Les sardines à l'huile ouvertes fraîchement, le rouge saucisson qui de l'art se pommelle, et le singe massif s'étale pêle-mêle, le grand air de la plaine en est le condiment. Lors de quelques malins sonne la régalade, l'un des frais pissenlits prépare une salade, l'autre dans un chaudron pêche des escargots. Ce sont mets de héros que le laurier parfume, et pour les arroser, le bon Dieu, ses coutumes, tire un vin de cristal derrière ses fagots.
Lu par Marie-Lou, le poème « L'heure de la soupe » de Gaston Chantrieux. Une nouvelle petite virgule musicale, je vous propose d'écouter encore un petit verre de vin et juste après, nous entendrons un autre témoignage d'un écrivain combattant dont nous avons déjà parlé. Nous entendrons le témoignage de Roland Dorgelès. Mais tout de suite, encore un petit verre de vin sur Radion.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nombreux sont les écrits sur la Grande Guerre. On pourra mentionner par exemple Louis-Ferdinand Céline, qui était sous-officier durant la Grande Guerre, Alain Fournier, l'auteur du Grand Môme, tué, dont on retrouvera beaucoup plus tard le corps. Et du côté allemand, on peut mentionner le romancier Erich Maria Remarque avec son roman « À l'Ouest, rien de nouveau » paru en 1929 et qui connaîtra une première adaptation cinématographique en 1930. Il faut mentionner Maurice Genevoix, que vous avez déjà entendu, et nous allons réentendre Roland Dorgelès, né en 1885, mort en 1973. Il était caporal au 34e régiment d'infanterie. Roland Dorgelès, qui nous a laissé un roman précieux et poignant, un témoignage fort sur la Grande Guerre, roman intitulé « Les Croix de Bois », qui ratera le prix Goncourt, mais qui obtiendra le prix Femina. D'ailleurs, Roland Dorgelès revient sur ce ratage du prix Goncourt.
Le prix Goncourt, ça a été une grande date pour moi. Je revenais de la guerre et je n'avais pas le sou. Ce livre a paru, je dois dire que j'ai eu aussitôt l'audience des anciens combattants et mon livre a eu un départ immédiat. Mais j'étais candidat au prix Goncourt. On m'avait dit que j'étais sûr de l'avoir. Je ne l'ai pas eu. J'ai été déçu sur le moment et depuis je me suis félicité. J'en suis content d'avoir manqué mon prix Goncourt, car si je l'avais eu aux dépens de Marcel Proust, toute ma vie, j'aurais traîné cela comme un remords. On aurait dit ce misérable, il a fait mourir de chagrin Marcel Proust en lui volant son prix Goncourt. C'est honteux, vraiment, il a brisé la vie de Marcel Proust. Tandis que là, il a eu son prix, moi j'ai eu mon petit succès, je m'en contente et je suis heureux de n'avoir pas traîné derrière moi la dépouille de Marcel Proust.
À l'instant, la voix de Roland Dorgelès, l'auteur des Croix de Bois, qui obtiendra le prix Femina en 1919. Je voudrais aussi mentionner la poétesse d'Auxerre, Marie Noël, qui a connu d'ailleurs les deux guerres. Elle est jeune femme au moment de la guerre de 14-18 et elle revient dans une lettre sur l'enthousiasme et puis l'illusion d'une guerre courte au moment de la déclaration de la guerre en août 1914. Voici ce que Marie Noël écrit. Tous les partants se proposent de rapporter la tête de Guillaume. Il n'y en aura pas assez pour tous ceux qui en veulent. Nous avons mentionné Henri Barbus, l'auteur du Feu, journal d'une escouade. Nous avons entendu à plusieurs reprises la voix de Maurice Genevoix, auteur de ceux de 14. Il faut aussi mentionner du côté allemand Erich Maria Remarque et son célèbre roman À l'Ouest, rien de nouveau. Mentionnons aussi Orage d'acier de Ernst Jünger, un ancien officier des troupes allemandes. Et du côté anglais, il faut donner le nom de Wilfred Owen, peut-être le plus grand des poètes britanniques de la guerre qui trouvera la mort en 1918. Mentionnons également Siegfried Sassoon et, côté français, moins connu, me semble-t-il, un magnifique roman qu'on trouve très facilement en livre de poche et qui a pour titre « La peur » sous la plume de Gabriel Chevalier. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de vous en proposer un extrait dans ce wagon livre aujourd'hui sur Radio. Je vous ai parlé des journaux de Poilu pour contrer la presse française qui s'est un peu déshonorée d'ailleurs par une désinformation proverbiale au début de la guerre. Censuré également et surtout ce que l'on appelait le bourrage de crâne. En réaction est né dès 1915, même si ça a été un faux départ, le fameux canard enchaîné, puisque sa parution effective va débuter le 5 juillet 1916. La date est importante parce que l'hécatombe de la première guerre et le bourrage de crâne auront pris de l'élan et le mouvement Dada fait exploser la scène artistique en faisant table rase de toutes les théories esthétiques. Tandis que le Crapouillot, le journal des tranchées créé par le caporal Jean Galtier-Boissière, adopte comme slogan « Courage, les civils ». Alors le canard enchaîné a maintenant plus d'un siècle. Lorsqu'il paraît, la presse française, ivre de liberté depuis les fameuses lois de 1881, doit composer avec le rétablissement brutal d'une censure a priori imposée par l'état-major. Le titre du canard enchaîné est déjà un empilement de jeux de mots qui annonce la couleur qui sera celle du contre-pied et de la dérision. Le canard, vous le savez, c'est synonyme de journal, mais c'est aussi le nom que l'on donnait au XVIIe et au XVIIIe siècle dans les campagnes à ces petits journaux qui racontaient des histoires. Alors il fallait donc un contexte de bourrage de crâne pour oser lancer un journal à l'enseigne des fausses nouvelles. Il y avait eu un autre canard anticlérical, antimilitariste et libertaire qui avait inspiré le couple Maréchal, créateur du canard enchaîné. C'était le canard sauvage, lancé en 1903 par Edmond Chatenay sur 8 pages. Alfred Jarry était un contributeur régulier, Jules Renard tenait la rubrique théâtrale, Octave Mirbeau y signait, et les dessinateurs s'appellent alors Carandache, Valoton ou Bonnard. Alors le journal Le Canard Sauvage va rendre l'âme après 32 numéros, et c'est donc effectivement Le Canard Enchaîné qui va naître en 1915. C'est le chantre de l'Union Sacrée, Clémenceau, qui avait créé en 1913 un quotidien dont le titre était « L'homme libre ». Alors le journal fut suspendu par la censure pour avoir dénoncé les conditions de transport des blessés dans des wagons où avaient séjourné des chevaux atteints du tétanos. Clémenceau avait alors fait reparaître son journal sous le titre « L'homme enchaîné », et comme le canard entendait s'attaquer à la guerre, à la censure, aux politiciens, aux affairistes, aux curés, au pouvoir, à la guillotine, avec une philosophie, la liberté de la presse ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas. C'est donc, lorsque le canard enchaîné apparaît en France, il n'est donc pas le seul journal satirique. En tout cas, il a réussi sa traversée, il a survécu. C'est un journal qui a connu très vite un grand succès, qui a été soutenu d'ailleurs par ses lecteurs. En 1915, Le Canard Enchaîné avait ce slogan « Tu auras mes plumes, tu n'auras pas ma peau ». Il était donc important de rappeler la naissance du Canard Enchaîné. Je vous propose tout de suite, sans tarder, un extrait du roman de Gabriel Chevalier, La Peur, lu par Patrick.
Subitement, le soldat qui me précédait s'accroupit, se traîna sur les genoux pour passer sous un encombrement de matériaux. Je m'accroupis derrière lui. Quand il se releva, il démasqua un homme de cire, étendu sur le dos, qui ouvrait une bouche sans haleine, des yeux sans expression. Un homme froid, raidi, qui avait dû se glisser sous cet illusoire abri de planches pour mourir. Je me trouvais brusquement nez à nez avec le premier cadavre récent que j'eusse vu de ma vie. Mon visage passa à quelques centimètres du sien. Mon regard rencontra son effrayant regard vitreux. Ma main toucha sa main glacée, assombrie par le sang qui s'était glacé dans les veines. Il me sembla que ce mort, dans ce court tête-à-tête qu'il m'imposait, me reprochait sa mort et me menaçait de sa vengeance. Cette impression est l'une des plus horribles que j'ai rapportées du front. Mais ce mort était comme le gardien d'un royaume de morts. Ce premier cadavre français précédait des centaines de cadavres français. La tranchée en était pleine. Nous nous débouchions dans nos anciennes premières lignes, d'où était partie notre attaque de la veille. Des cadavres dans toutes les postures, ayant subi toutes les mutilations, tous les déchirements et tous les supplices. Des cadavres entiers, sereins et corrects, comme des saints de chasse. Des cadavres intacts, sans traces de blessures. Des cadavres barbouillés de sang, souillés, et comme jetés à la curée des bêtes immondes. Des cadavres calmes, résignés, sans importance, des cadavres terrifiants d'êtres qui s'étaient refusés à mourir, ceux-là, furieux, dressés, bombés, hagards, qui réclamaient la justice et qui maudissaient, tous, avec leurs bouches tordues, leurs prunelles dépolies et leur teint de noyé, et des fragments de cadavres, des lambeaux de corps et de vêtements, des organes, des membres dépareillés, des viandes humaines rouges et violettes, pareilles à des viandes de boucherie gâtées, des graisses jaunes et flasques, des os laissant fuir la moelle, des entrailles déroulées comme des vers ignobles et que nous écrasions en frémissant. Le corps de l'homme mort est un objet de dégoût insurmontable pour celui qui vit, et ce dégoût est bien la marque de l'anéantissement complet.
À l'instant, un extrait du roman « La peur » de Gabriel Chevallier. Gabriel Chevallier, né en 1895 à Lyon, disparu en 1969. Roman à lire, effectivement. Magnifique témoignage extrêmement fort sur les combattants de la guerre de 14-18. Et à mentionner aussi, c'est que Gabriel Chevallier est devenu très connu en 1934 pour son quatrième roman intitulé « Cloche-Merle », qui va connaître un énorme succès public avec des millions de ventes, des adaptations, dont une trentaine de traductions et une expression passée dans le domaine public. Je vous propose cette fois-ci de terminer notre émission avec un dernier poème, un hommage aux femmes qui étaient privées de leur mari au combat, des femmes seules qui travaillaient parfois durement pour continuer à faire tourner l'économie française. Je vous propose d'entendre Jannick, un poème de Louis Barbet. Louis Barbet, né en 1876, mort en 1932, et qui fut lauréat des auteurs du Front. Ce poème a été publié en 1918 dans le recueil « Trois poèmes » et il met en lumière le désespoir des femmes qui ont perdu leur mari ou leur fiancé au combat. Tout de suite, écoutons Jannick, lu par Marie-Lou.
Depuis bientôt un an, Jannick est sans nouvelles de son mari, parti se battre aux Dardanelles. Il écrivit d'abord fréquemment de là-bas, puis se dit désigné pour de prochains combats et ne répondit plus. Longtemps, elle fit preuve d'un courage réel en cette affreuse épreuve. Mais le chagrin finit par être le plus fort. Et maintenant Jannick, pâle comme la mort, vieille à 20 ans, n'est plus qu'une ombre lamentable.
Le poème de Louis Barbet, Jannick, lu par Marie-Lou. Je remercie Marie-Lou et Patrick de nous avoir offert leur voix pour les lectures des textes que vous avez pu entendre aujourd'hui. Je rappelle aussi qu'un grand nombre des poèmes que vous avez entendus dans ce wagon-livre du samedi 9 novembre 2024 sont extraits d'une anthologie « Les poètes de la Grande Guerre » aux éditions du Cherche Midi, parue en 1992 avec une réédition en 2014. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Vous retrouvez les références des ouvrages et des textes lus aujourd'hui en podcast sur yannickpetit.fr. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congé de fin de semaine et je vous donne rendez-vous samedi prochain, 16 novembre. Nous serons avec Patrick Chavardès pour son roman « Rue de Gibraltar ». Merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir et à samedi prochain.